Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Gilles Berset, professeur d'économie à Neoma Business School, qui a coécrit Travail et changement technologique de la civilisation de l'usine à celle du numérique. Chez Odile Jacob, Jérôme Dédéian, associé de toutsonmesfinances.com et président de Mon Partenaire Patrimoine, du Conseil en gestion de patrimoine pour tous, et Jean-Hervé Lorenzi, membre du Cercle des économistes, qui préside l'Association pour les rencontres économiques d'Aix-en-Provence, qui se tiennent tous les mois de juillet, et il a coécrit La Grande Rupture, réconcilier Keynes et Schumpeter chez Odile Jacob, qui a reçu le prix Colbert de l'Institut de France. Bravo. La réaction de Pierre qui me dit, pour éviter la boucle prix salaire, on met en place la boucle prix dépenses publiques, l'effet sera le même. Gilbert.
C'est pas complètement faux, hein, puisque pour l'instant, on décale dans le temps. Mais faut dire qu'on est face à un danger très très particulier en France. Hein. Sur les 39 pays de l'OCDE, 28 ont un salaire minimum national, 4 sur ces 28 ont des clauses d'indexation automatique. Nous sommes le seul à avoir non seulement des clauses d'indexation automatique multiples, infra-annuelles, mais en plus sur une inflation qui est celle du premier quintile de revenus.
Oui, les 20% plus les plus pauvres.
Dynamique que l'inflation générale. Là où l'inflation générale est à 5,9, en France, sur les 12 derniers mois, le SMIC a été relevé sur les 12 derniers mois de 8%. Et le problème, c'est que cette augmentation du SMIC pousse les minima de branche, qui eux-mêmes poussent les négociations salariales. Mmh. Et on est là face à deux risques extrêmes. Premier risque, ça ne se répercute pas sur l'intégralité de l'échelle des salaires. Ces hausses du SMIC et des minima salariaux. Et alors, il y a plein de gens qui voient leur salaire tassé
vers le SMIC.
Ce qui est démoralisant. C'est frustrant, il n'y a pas de mobilité salariale. Et puis, ça coûte cher à l'État, parce que ça augmente la masse salariale éligible aux allègements de contributions sociales. Le risque alternatif, c'est, ça se répercute sur l'intégralité de l'échelle des revenus, 8% hein, d'augmentation du SMIC sur les 12 derniers mois. Et là, c'est un coût en termes de compétitivité, d'offre, et donc de chômage. C'est ce qu'on a connu à la fin des années 70, au début des années 80. C'est pour ça que le gouvernement Mauroy, gouvernement de gauche, avait pris la décision à l'époque d'interdire l'indexation des salaires sur les prix. Faut le rappeler, hein. En 1983, c'est le gouvernement Mauroy, avec Delors au ministère de l'économie et Mitterrand à l'Élysée, qui avait interdit l'indexation des salaires sur les prix pour sortir de cette boucle prix-salaire. Et donc on est entre ces deux risques extrêmes. Est-ce qu'on va être plus près du tassement, avec un coût pour les finances publiques, des frustrations pour les salariés?
Ou alors un emballement salarial.
Est-ce qu'on va être plus près de l'emballement avec un coût en chômage? C'est-à-dire, est-ce qu'on le paye en salaire et en frustration, ou est-ce qu'on va le payer en chômage? Et nous sommes en France plus exposés que tout autre pays de la zone euro à ce risque-là.
On va évoquer justement...
C'est pour ça que le lissage fait sens.
C'est très important, monsieur Gilbert, et vraiment la compétence. D'abord, la parole du comité sur que tu présides est importante sur ce sujet-là. Pour le moment, ce mécanisme inflationniste traditionnel, mais là où tu as mille fois raison, c'est d'indiquer à quel point c'est un mécanisme d'écrasement des bas salaires et la frustration pour les gens qui sont juste au-dessus du SMIC. Revenir là-dessus, c'est vraiment un sujet absolument majeur et je suis mille fois d'accord avec ce que tu viens de dire.
Heureusement qu'il a été rappelé à M. Lorenzi qu'il faut compter la CSG dans le calcul de l'impôt sur le revenu.
Bien sûr que c'est moi qui l'ai dit.
C'est Richard qui m'écrit ça.
Et si vous me permettez d'ajouter
on va
un chiffre,
Gilbert. Hein,
un chiffre. La France est le pays de l'OCDE dans lequel le ratio entre le revenu d'une personne, d'un célibataire à temps plein au SMIC, et puis le revenu d'un célibataire toujours à temps plein au salaire médian, ce ratio est le plus élevé. 80% en France. 80% en France. C'est-à-dire que quelqu'un, vous voyez, qui part du plus bas de la hiérarchie des salaires, qui traverse la moitié de cette hiérarchie des salaires, c'est un effort incroyable, hein, traverser la moitié. Il passe de 80 à 100. Ailleurs, le gain salarial est beaucoup plus élevé. C'est-à-dire, chez nous, le gain de la mobilité salariale est très faible. Pourquoi ? Ben, y a beaucoup de prestations, énormément de prestations, qui évidemment sont dégressives, parce que sinon, ça reviendrait...
Avec en tête la prime d'activité.
Très cher, oui. Y compris, entre autres, la prime d'activité.
D'où l'idée que c'est majeur, Non, c'est majeur ce qui est dit. Mais comment on change un modèle dont avec des revenus qui sont quand même des salaires, bas salaires qui sont assez faibles, et un mécanisme de transfert par l'État qui est massif. Non, mais c'est toute une société qui fonctionne.
J'ai une réaction d'auditeur. C'est même un business model du pays. C'est la valeur ajoutée de ce qu'on produit. Et donc ça, c'est une question de valeur ajoutée. C'est absolument. Comment est-ce qu'on fait pour avoir de plus en plus de main-d'œuvre qualifiée, parce qu'on a de plus en plus de production à valeur ajoutée. Donc c'est un problème de modèle économique du pays, et ça commence à l'école. Enfin, voilà.
J'ai une réaction d'auditeur qui me fait la transition que j'attendais. Il s'appelle Sally, mais enfin le sujet du partage de la valeur ajoutée est abordé par le gouvernement. Ce n'est qu'à travers ce sujet crucial que nous pourrons réduire l'étatisation de la vie des Français de manière durable. Olivier Dussopt annonce hier qu'il y aura des mesures de partage de la valeur dans le budget. Et il est mercredi prochain au Conseil des ministres, Jérôme Dénion. Qu'est-ce qu'on peut faire comme ça en urgence?
Alors, on fait les deux trucs, parce que beaucoup a été fait ces dernières années. Je vous rappelle que le coup d'arrêt à l'extension du domaine de la lutte en matière de partage de la valeur, ça a été la création du forfait social par Nicolas Sarkozy, et puis son passage à 20% monstrueux en août.
Je rappelle, c'était la fiscalité qui accompagnait les mécanismes d'intéressement et de participation.
Voilà, la taxe crétine qui pénalise les employeurs qui partagent. Voilà,
Presque plus quand même,
elle a quasiment disparu pour les petites boîtes, mais pas complètement. Donc évidemment, la mesure à court terme qu'on peut faire, c'est finir de le supprimer, lui tordre le cou définitivement pour relancer les choses, puisque je rappelle que ça avait eu un impact sur la baisse des montants versés par les entreprises qui étaient soumises. C'est mécanique, ça a été prouvé, et dans des belles boîtes, pas seulement chez des patrons voyous. La deuxième chose, c'est que ça fait des années qu'on tourne autour de la réforme de la participation aux bénéfices. C'est un sujet que je connais par cœur.
Ah ben vous connaissez par
cœur. J'ai fait probablement 7 ou 8 campagnes de lobbying en 20 ans, chaque fois que le sujet était ouvert par un gouvernement, en allant voir les cabinets ministériels, l'Élysée, Matignon, les parlementaires, pour dire voilà les bases d'une remise au carré, d'une adaptation de la formidable formule de participation quand elle a été créée par Michel Debré, le général de Gaulle, qui correspondait à l'état de l'économie à l'époque, au fait que le bénéfice fiscal était la même chose que le bénéfice comptable, parce qu'on ne l'avait pas encore mité par tout ce que les crédits d'impôt et autres joyeusetés du même genre. On sait exactement, c'est documenté, c'est calculé, pourquoi on pourrait remettre d'équerre cette formule, pour qu'elle donne plus, pour qu'elle corresponde à la création de valeur des entreprises, parce qu'aujourd'hui, le résultat de la formule légale, c'est qu'il y a des boîtes qui gagnent de l'argent qui n'en versent pas, et des boîtes qui ne gagnent pas d'argent qui sont obligées d'en verser. Donc c'est totalement aberrant. Et on s'est toujours enlisé dans des débats de vraiment d'apothicaire sur oui, mais au sein d'un secteur ou d'une région, il y en a qui vont payer plus, d'autres moins, donc il faudrait, etc., etc. Il y a un truc très simple à faire. On réforme la formule de participation, point 1.
C'est pas ce que Thibault Langsade a préparé.
On descend, il n'a pas été écouté pour le moment, descend l'obligation de versement de la participation, plus dans le bas, on est à 50 salariés aujourd'hui. La dernière fois qu'on a fait un saut quantique dans le partage de valeur, c'est quand on est passé de 100 à 50 salariés pour l'assujettissement à la contrainte, mais avec une modification de formule. On libère les boîtes qui sont en dessous de la contrainte de verser la formule légale, parce que parfois c'est trop. Vous avez des boîtes qui ne peuvent pas se permettre un modèle économique qui ferait que ça ferait trop. Et le dernier point qui est essentiel, c'est que pour accompagner celles qui vont donner plus et donner moins, puisqu'on a une cible qui est plus vertueuse une fois qu'on a modifié, on fait une transition, de 5 ans, où on dit année 1, je verse 100% de l'ancienne formule, année 2, je fais 20% de la nouvelle, 80% de l'ancienne, et on accompagne ça, et puis les boîtes sont suffisamment intelligentes pour ajuster leur structure de coûts, leur machin, pour que ça colle.
Voilà. Vous voulez pas faire une sixième campagne de lobbying ?
Tout ça a été dit, redit, documenté, j'ai des notes épaisses comme ça, je l'ai mise à jour 7 fois dans ma carrière, et à chaque fois, on s'est enlisé. Voilà.
Peut-être que dans le budget, on verra apparaître ce que Thibault Langsade a appelé le dividende salarié. Il a imaginé un peu ce que vous me décrivez, je crois, mais c'est assez complexe. À la demande du président de la République, qui lui avait confié la mission
de... C'est pas tout à fait...
Bravo, l'exposé...
Et Jérôme, il faut absolument que tu fasses une sixième campagne, parce que c'est fondamental. Pourquoi c'est fondamental? Parce qu'à l'évidence que nous souhaitons tous, c'est que le mécanisme inflationniste, donc cette course-poursuite entre les prix et les salaires, n'ait pas lieu. Et donc, évidemment, ça va quand même réduire le pouvoir d'achat, ce que Gilbert a dit. Donc il est clair que par d'autres moyens il faut arriver à recanaliser un peu de financement. Et alors Thibault Langsade avait sorti quelque chose qui est un tout petit peu différent, mais qui n'est pas du tout contradictoire.
Pas rentrer dans la tuyauterie, dividende salarié,
mais c'est absolument fondamental, et ça c'est une mesure. Alors si M. Dussopt a ça en tête, bravo.
Alors on peut dire
Gilbert Sept.
Juste sur ce point, c'est un domaine sur lequel j'ai beaucoup beaucoup écrit avec Jacques Barthélémy. On a été les partisans très très forts, très actifs, effectivement, de la participation. Et la participation par rapport à la prime Macron et par rapport à l'intéressement, la participation offre un avantage spécifique qui est que l'assiette de la participation, c'est le bénéfice des entreprises. Alors, il faudrait le définir, la formule est à simplifier, mais c'est le bénéfice des entreprises. Ça veut dire que ça marche, tout le monde en profite. L'entreprise, ses actionnaires, ses propriétaires et les salariés via la participation. Ça ne marche pas, tout le monde y perd. Et c'est ce qui est intéressant dans un pays comme la France, qui est le pays dans lequel la conflictualité est la plus élevée de tous les pays développés. Quand on compare la France avec les autres pays de l'OCDE, pour le nombre, par exemple, c'est un symptôme, de jours perdus pour grève ou arrêt collectif de travail, on est en tête. Voilà. On est en tête sur les deux dernières décennies. Il y a une conflictualité incroyable. Et bien la participation offre aussi comme vertu, je veux dire, de créer des intérêts communs entre capital et travail et de réduire cette conflictualité. Tout le monde est dans la même barque, en quelque sorte, via la participation.
Exactement. On vient de parler du côté variable, qui est remarquable, mais l'autre truc, c'est que la participation, ça n'est pas qu'un flux financier. C'est aussi un flux d'informations et de dialogue autour de la marge des affaires. Quand c'est bien utilisé, dans les boîtes qui font la pédagogie et le dialogue avec les partenaires sociaux, avec les salariés, sur comment on peut faire pour améliorer la performance de l'entreprise et que tout le monde en profite, il naît de cette perspective possible de flux financier, et c'est pour ça qu'il faut pousser comme
juste un point. Et on referme juste après.
L'auditeur a trouvé que c'était très important. Il a raison. C'est le principal sujet de l'économie politique. Depuis Ricardo, c'est le partage salaire profit. C'est fondamental. En France, je vous rappelle que l'ensemble des revenus du capital, c'est 32%. Il y a un équilibre qui est celui qui est le plus porteur de croissance. Il est clair que si on s'aperçoit que j'allais dire, au-delà de ce mécanisme de la participation dont vous dites, à juste titre, je partage mille fois ce que vous avez dit, que c'est le plus efficace, c'est très efficace, pour peu qu'on le modifie, on modifie les règles, il est clair que ça va permettre vraisemblablement de rééquilibrer finalement un partage salaire-profit qui ne serait pas très favorable à la croissance.
Will m'écrit, tous les ans, mon patron sabre le champagne pour un chiffre record et on n'en voit jamais la couleur, dit-il. Faut-il prendre exemple sur ces gauchistes britanniques qui décident de prendre en charge une très grosse partie de la facture d'énergie des ménages et désormais de payer la moitié de la facture d'énergie des entreprises pendant l'hiver, pendant 6 mois. C'est limité dans le temps. Tandis qu'en France, Arc a annoncé qu'ils allaient réduire, voire fermer la production. Idem pour Duralex, idem pour l'aluminium Dunkerque, idem dans le secteur des engrais. Lactalis indique que sa facture d'énergie de 500 millions d'euros sera d'1 milliard en 2023. Il y a les signaux rouges qui s'allument partout au-dessus des entreprises. Alors aujourd'hui, Bruno Le Maire doit normalement annoncer des mesures d'aide pour le secteur du BTP. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut en mettre encore davantage pour être aussi un peu du côté de l'offre et alléger la facture d'énergie des entreprises qui va exploser en 2023? Quelqu'un a une opinion là-dessus?
Jean-Hervé Lorenzi. Enfin, les chiffres que vous évoquez sont très révélateurs. Moi, hier, j'étais avec des chimistes. C'est hallucinant. Hein, le coût, ce qu'elle va représenter, il est clair qu'il faut faire quelque chose. Alors, après, on est toujours oui ou non binaire. Donc, il faut voir ce qu'on peut faire. Madame Truss, qui se révèle effectivement une socialiste très, très, très forte, a raison d'équilibrer des mesures de demande et des mesures d'offre. Les mesures d'offre, elles sont majeures. Elles sont pas encore au point dans notre pays et il faut absolument le faire. Sinon, on va avoir les résultats. Je rappelle que la production industrielle a baissé en juillet. Il faut faire très, très attention une fois de plus, à la croissance et à la réalité de ce qu'on fait en termes d'activité dans notre pays.
Ma réaction de chef d'entreprise là-dessus, c'est que c'est quasiment une mesure d'économie de guerre, puisque fait, ce qui se passe, c'est que si votre outil industriel est obligé de s'arrêter et que vous ne pouvez pas le faire redémarrer pendant une période longue, vous allez le détruire. Parce que faire redémarrer des outils industriels de cette nature-là, s'ils ont été fermés pendant longtemps, c'est vraiment très compliqué. Donc vous risquez vraiment la désindustrialisation, l'incapacité à rouvrir. Il y a un deuxième type d'entreprise sur lequel je voudrais juste dire qu'il faut aussi regarder ce qui se passe. Vous savez, mon exemple très concret de ma boîte de confiture haut de gamme dont je m'occupe, la Cour d'Orgères. Là, on a pris 800% sur le gaz sous les bassines, d'accord, 800% d'augmentation. On a pris 150% sur le verre, 50% sur les fruits, Voilà. Donc ça vous donne une idée de l'explosion de nos coûts de production cette année. Non. Vous essayez évidemment, autant que faire se peut, parce que votre qualité est bonne, parce que vos clients sont fidèles, de répercuter une partie de cette hausse de vos coûts de production pour maintenir vos marges sur vos consommateurs, mais il y a un moment où le prix psychologique du pot de confiture vous atteint à la limite du panier de la ménagère, pour la faire courte. C'est vraiment très concret, là c'est hyper terre-à-terre. Et donc il n'y a pas que les chimistes, les producteurs d'acier, d'aluminium, de verre, etc. Il y a aussi notre tissu de TPE et de PME artisanal qui se prend ce choc en attendant que le prix de l'énergie revienne à la normale pour cause de récession, pour cause de capacité de production ou de flux qui se remettent d'équerre au niveau mondial. Il y a peut-être quelque chose à faire en économie de guerre aussi, très concrètement, pour ces entreprises-là.
J'avance. La Fed, 75 points de base. On n'a pas eu 100 points de base comme certains commençaient à le redouter. 75 points de base. Bon, le message, je vais droit au but, on a 11 minutes, je voudrais quand même qu'on dise aussi peut-être un mot des retraites.
Oui.
Jay Powell a tranché. Entre le chômage et la lutte contre l'inflation, je choisis la lutte contre l'inflation, donc le chômage aux États-Unis va augmenter. Il est de 3,7% à la fin du mois d'août, et il nous dit, fin 2023, il sera à 4,4% le taux de chômage. Mais parce que j'ai besoin de freiner l'inflation. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est... Est-ce qu'il a raison ? Entre les deux, il dit on peut pas. Alors, Jean-Marc Daniel disait ce matin, finalement, le mandat de la Fed est un mandat bancal qui n'est pas tenable, car le mandat de la Fed, c'est lutte contre l'inflation et emploi et croissance. Et ben les deux réunis, c'est pas possible. On peut pas avoir les deux.
Il expliquait que la courbe de Phillips avait préparé. Moi, je vais faire de Nicolas Dose.
Ah bon ? Alors, allez-y.
Nicolas Dose, que j'écoutais scrupuleusement ce matin, disons que M. Powell a raison, parce qu'on voit bien l'ampleur des deux sujets. En réalité, c'est un problème de balance, il faut trouver. Mais Nicolas Dose, le même Nicolas Dose, avait, avec à juste titre, dit attention à ce que ces mesures ne créent pas une récession mondiale. C'est-à-dire qu'il expliquait à quel point, avec justesse, donc tout est une question de mesure. L'économie politique, c'est la mesure, c'est pas oui, non, c'est savoir jusqu'où on va.
C'est ce que dit Stiglitz, hein. C'est voilà. Bon, là, c'est bon, arrêtez-vous, il y en a assez.
Non, lui dit que l'inflation, de fait...
Que maintenant, l'inflation va se résorber toute seule et qu'il faut arrêter de monter les taux.
Donc, s'il a raison aujourd'hui, s'il poursuit, parce qu'il avait un discours quand même assez guerrier dans cette affaire,
il
faudra peut-être lui donner un peu de l'exomil, c'est tout.
Camomille pour Jay Powell.
Sur les taux, on en est encore à des niveaux de taux qui sont relativement bas. Hein, 3,325.
On va pas être très loin du taux neutre aux États-Unis. Hein.
3,325. Et puis, là, on est sur les taux courts. Il y a évidemment les mesures qui peuvent concerner les taux longs, à savoir ce qui se fait du côté de la dette publique et au bilan de la Fed. Est-ce qu'il y a réinvestissement ou pas ? Ou est-ce qu'il y a l'engagement d'un non-réinvestissement et d'une baisse de ce volume de titres qui est au bilan de la Fed ? Et dans ce cas-là, les taux longs pourraient augmenter. Donc, il y a différents leviers d'action. Bon, la Fed est dans son mandat. Encore une fois, les banquiers centraux ont des mandats, sont nommés pour être indépendants et ne pas être soumis à une quelconque pression politique, justement, avec comme objectif unique dans d'autres pays que les États-Unis de lutter contre l'inflation, contre une inflation trop forte. Aux États-Unis, il y a un mandat double, mais le mandat chômage est spécifié sans préjudice du mandat de la partie inflation, en quelque sorte. Et cette partie inflation...
4-4 de chômage, c'est pas
contenu,
non plus...
Compte tenu des coûts de l'inflation à moyen et long terme, hein, qu'on a pu voir dans les années 70, faut bien voir qu'on pourrait le payer beaucoup plus cher en chômage si on laissait l'inflation sortir complètement du tube de dentifrice, pour reprendre une expression usuelle.
Vous avez un avis là-dessus,
alors moi c'est toujours compliqué.
La BCE, c'est différent comme situation. On parle
toujours
de
compliqué
la Fed, là,
pour moi, pauvre entrepreneur, de parler devant des économistes aussi compétents de ces sujets aussi complexes. Je vais juste me mettre dans la peau de Monsieur Powell. Monsieur Powell, il fait exactement qu'est-ce qu'il se dit. Il se dit, j'ai pas encore cassé les anticipations d'inflation, donc je risque, compte tenu de la surchauffe de mon économie, la boucle inflation. Salaire, donc je vais y aller franchement, et je vais continuer à dire que je vais y aller franchement, pour casser ces anticipations-là. Quitte à ce que j'accepte temporairement une dégradation du marché de l'emploi qui, de toute façon, est en surchauffe, puisqu'il y a encore des problèmes de recrutement aux États-Unis.
Voilà,
on est vraiment
on est
pas loin du chômage, du fond de cuve, du chômage structurel
c'est
aux États-Unis en ce moment. Voilà, alors, et M. Powell, il peut le faire. Pourquoi ? Parce que c'est M. Powell. Et donc, voilà, si je suis Mme Lagarde, je suis moins à l'aise dans mon costume de banquier central. Pour une raison extrêmement simple, c'est qu'il y a quand même un enjeu, c'est qu'en faisant ça, Powell, il exporte son inflation. inflation et que nous, on est obligé de suivre parce que sinon, l'euro décroche. Mais que, alors, on n'a pas du tout le même substrat économique que la surchauffe américaine. Et donc,
il obtient l'effet voulu sur le dollar.
Voilà. Et donc, il y a une responsabilité, comme le dit très bien, comme ça a été très bien dit, il y a une effet de responsabilité des États-Unis d'exporter pour que ça aille mieux chez eux leurs problèmes, mais jusqu'au moment où ça ne fait pas péter l'économie mondiale.
Voilà. Non, le discours du Conseil des gouverneurs de la BCE est relayé évidemment par le gouverneur de la Banque de France dans toutes ses interventions et de dire nous ferons ce qu'il faudra faire pour ramener l'inflation vers sa cible. Et ça, le fait de le ramener, l'objectif, c'est de l'avoir ramené à la cible en 2024, à la fin de l'année 2024. Bon, la route est longue, mais en tout cas, le propos est d'une dureté. Il est très clair, hein, ils sont mandatés pour ça. Leur mandat est celui-là.
Deux remarques par rapport à ce que Gilbert a dit. La première, c'est que c'est vrai que les taux sont encore relativement faibles. On oublie toujours que quand Carter cède la place à Reagan, le taux d'inflation est de 15% aux États-Unis, même légèrement plus, et les taux d'intérêt sont très élevés. Donc on est encore sur des choses.
C'est vrai.
Le sujet que tu as évoqué tout à l'heure sur les taux d'intérêt à long terme, c'est-à-dire sur la politique à mener, notamment pour la BCE, éviter que, non pas la Malte ou la Grèce, mais que l'Italie se trouve dans une situation très difficile, ça rend la tâche de nos gouverneurs bien-aimés de la BCE un peu plus compliquée.
6 minutes 20, votre avis sur les retraites. Et Elisabeth Borne voit les groupes parlementaires aujourd'hui pour parler de ça, le président de la République demain pour parler de ça. Plus les jours passent, plus l'hostilité est unanime vis-à-vis de cette réforme, et notamment la méthode retenue qui consisterait à passer en force démocratiquement. Oui. Évidemment, un amendement c'est démocratique, le 49-3 c'est démocratique, mais dans le contexte du moment, ça passe pas. Comment vous regardez ce sujet, Gilbert Sept?
Oui, je crois que ce domaine des retraites est celui d'une hypocrisie généralisée et permanente. Je prends l'exemple des réformes antérieures. Les réformes antérieures se sont toujours ont toujours reçu une opposition, mais d'une violence incroyable de la part des gens qui n'étaient pas à la gestion des affaires, qui, une fois qu'ils sont passés à la gestion des affaires, ne sont surtout pas revenus.
C'est vrai, ça.
Sur ces réformes.
C'est vrai.
Donc
c'est
il faut,
très vrai. Chacun
il faut,
fait
il faut
sa réforme, mais
il faut
quand même
le souligner.
Jamais, hein.
Tout le monde s'oppose aux réformes des retraites, mais une fois qu'elle est là, tout le monde est content qu'elle soit là, et personne ne revient là-dessus, si jamais il y a une alternance politique. Alors, on comprend tout à fait, on est en débat sur les retraites depuis maintenant 4 ans. Je crois que,
depuis 50 ans.
Ah oui, depuis 50 ans, mais voilà. Ça a été accru.
1981,
ça a été accru sur les 4 dernières années. Je crois que tous les éléments du débat ont été sur la table, ont été discutés, etc. Maintenant, c'est le passage à l'acte. Je pense qu'on n'a pas besoin de mois de discussion et de débats supplémentaires là-dessus.
Juste un mot. Gilbert a raison sur l'hypocrisie. Je rappelle juste que des réformes des retraites, on en a eu beaucoup. Si on n'en avait pas eu, celle de 93 les retraités vont commencer à sentir de manière forte la réforme Balladur, en réalité, on aurait 3 ou 4 points de plus de PIB pour les retraites. Donc, moi, je pense que tout ça va avoir lieu. Est-ce que c'est fait de manière très habile pour le moment? Évidemment, non. D'abord, la première était incompréhensible. Je pense que M. Delevoye lui-même n'arrivait pas à comprendre de quoi il s'agissait.
Je me suis posé la question, j'aurais de savoir si même lui arrivait encore à suivre le truc. Parce que...
Et deuxième sujet, deuxièmement, mettre en avant les évolutions sur les annuités, mettre en avant... Je veux dire, il y a mille manières de le présenter de manière plus forte, et je rappelle que le sujet majeur, c'est qu'entre 60 et 63 ans, il n'y a que 36% des gens qui sont en activité. Donc, on peut... Parce que ça, c'est un dispositif qui est le dispositif des entreprises. En réalité, chiffre encore plus significatif, entre 55 ans, on est en forme à 55 ans, et 63 ans, 64 ans, 56% ne sont en activité. Donc, on voit bien qu'il y a quand même aussi, c'est un problème qui dépasse l'idée qu'on rajoute un an ou deux, il faut aussi qu'on considère que les gens aient des activités plus longtemps, et ça, c'est aussi du côté des entreprises que ça se passe.
Jérôme Dédéant, par rapport à ce sujet.
Sous langue politique, comment peut-on se mettre dans un corner pareil? On est élu pour un deuxième mandat, on va dire, confortablement, pas confortablement, taux d'abstention, etc. En tout cas, on est élu et on a dit qu'on réformerait les retraites. Donc on a une fenêtre unique pour faire cette réforme, essentielle, pour nos partenaires, pour la crédibilité de nos finances publiques, pour c'est le ça, fonctionnement de notre économie et de notre société. On peut la faire dans la foulée de son élection et on peut la faire avec les moyens constitutionnels dont on dispose, qui peuvent être des ordonnances, qui peuvent être du 49-3, en engageant la responsabilité du gouvernement, parce que normalement, au début du quinquennat, on arrive quand même à assembler sa majorité. Et en même temps, on met un Conseil national de la refondation pour expliquer qu'on va tout discuter à côté du Parlement en parallèle, en introduisant une confusion supplémentaire, et on lance des ballons d'essai en disant qu'est-ce que vous penseriez du fait que je le mettrais dans un amendement qui je ne sais quoi, et on est sûr que le résultat se produit, tout le monde est vent debout et on se retrouve coincé. Comment peut-on juste se mettre dans cette situation?
Oui. Alors, Gilles Berset. Deux petits points, si vous m'y autorisez. Deux petits points. Cette réforme des retraites ne fera que nous rapprocher de ce qui existe dans la quasi-totalité des pays autour de nous, en particulier les pays dont on considère qu'ils sont les plus sociaux. Les pays de l'Europe du Nord et Scandinave, hein, ne fera que nous rapprocher. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, dans une période où les gains de pouvoir d'achat sont menacés, c'est le moins qu'on puisse dire, il n'y a pas de gains de productivité pour les financer, et la seule alternative, c'est est-ce qu'on se paye du pouvoir d'achat maintenant au détriment de nos enfants ou pas. Mais la réforme des retraites fait partie des réformes qui peuvent contribuer à l'augmentation du pouvoir d'achat. Pour la même population, on peut produire plus, on peut avoir plus de PIB. Et le débat consistant à dire « oui, mais la réforme des retraites ne doit pas être utilisée pour financer d'autres choses » est un faux débat. Parce que non seulement la réforme des retraites concourt à l'équilibre des régimes des retraites, mais par ailleurs, par plus de PIB, ça fait plus de recettes de TVA, plus de recettes d'impôts sur le revenu, plus de recettes d'impôts sur les sociétés, et ce plus de recettes en dehors des prélèvements
pour financer, du profit.
Plus de partage du profit, eh bien ça permet de financer des dépenses publiques d'avenir.
Cela dit, les Français qui ne sont pas, ils n'ont pas tous les défauts du monde, ils sont loin d'être stupides, ils ont compris que les retraites vont baisser de manière assez significative. Moi, j'ai des tas de calculs qu'on a fait qui montrent quand même que ça va être que Balladur va frapper forte 25 ans après. Et donc, on est déjà en sortie à
62,8.
62,9. Oui. Jean-Hervé, une année comme l'année 2022, qui gagne le plus ? Celui qui a sa retraite indexée sur les salaires, comme c'était le cas auparavant, ou celui qui a sa retraite indexée sur l'inflation, comme c'est le cas maintenant ? Je crois que les salaires ne suivront sans doute pas l'inflation. Je pense que les retraités sont gagnants par rapport aux salariés, quand même, malgré tout. 2022-2023.
On est d'accord. Oui, on est d'accord. Ce que je veux dire, c'est que on peut faire le truc de manière subtile, plus habile. Moi, je suis mille fois d'accord avec Jérôme, non seulement politiquement, mais même dans la présentation des réformes. Et tu as raison de dire, quoi qu'il arrive, l'opposition ou les oppositions expliqueront que c'est pas possible. Ça fait quatre fois que ça s'est fait, et quatre fois les réformes ont été d'ailleurs très efficacement mises en place.
La remarque de Gilbert est quand même très... L'hypocrisie est fantastique. Chaque fois, celui qui est de l'autre côté est contre la réforme qu'on lui propose, et quand il est aux affaires, il garde,
absolument.
Il garde la réforme sous le coude, parce que s'il est bien content qu'elle ait été faite
et assumée. Je rappelle qu'avec Mme Touraine, on arrive assez facilement aux 65 ans.
Personne ne revient sur le Touraine, hein, d'ailleurs.
D'ailleurs, il va continuer à produire ses effets, et tant mieux, mais il faut en mettre une.
Mais il est possible que l'amendement accélère le calendrier.
On a fini. Oui, mais dans la couche de plus qu'on doit mettre, il y a aussi la fin du hold-up générationnel des boomers sur le reste de la population plus jeune. Si on veut donner un message convenable à nos enfants, hein, qui rentrent sur le marché du travail aujourd'hui, c'est le cas des miens, il faut quand même qu'on leur explique que, alors je ne vais pas me mettre dedans parce que je ne suis pas boomer, mais je pourrais, qu'on va rééquilibrer un peu cet extraordinaire hold-up qui a eu lieu
intergénérationnel. Je suis d'accord, mais c'était Gilles Berset, majoritaire aujourd'hui dans
les pays qui décident, et malheureusement,
Hervé, Lorenzi, demain.